Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dernier signe de vie de Narumi Kurosaki est sans doute un cri entendu vers 3h du matin à la résidence universitaire de Besançon dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016. Depuis cette date, l'étudiante japonaise a disparu et les enquêteurs ont la certitude qu'elle a été tuée par son ancien petit ami. Au Japon, ses parents survivent tant bien que mal. Ils espèrent que l'assassin présumé de leur fille, totalement libre aujourd'hui, sera jugé un jour.
Tout dans ce dossier permet de considérer que Narumi a malheureusement été assassinée. Il y a eu un énorme travail d'investigation qui a été réalisé. Au vu de ces indices, au vu de ces éléments, on ne peut pas un seul instant imaginer qu'elle soit en vie.
Maître Sylvie Gallet est l'avocate française des parents de Narumi. Âgés d'une cinquantaine d'années, ils sont divorcés. Le père qui travaillait dans le commerce est au chômage. La mère est en arrêt maladie.
Je suis particulièrement inquiète pour eux. Au fil des mois, au fil des années, il y a une dégradation de leur état de santé. Même dans leur cadre social et professionnel, ils ne parviennent plus du tout à être intégrés et à poursuivre leur activité professionnelle parce qu'ils sont intégralement tournés vers la recherche de la vérité concernant leur fille.
Nicolas Jacquard couvre cette affaire depuis le début pour Le Parisien. Quand Narumi Kurosaki disparaît à Besançon en décembre 2016, elle a 21 ans.
Elle est étudiante à ce qu'on appelle le CLA de Besançon, le Centre de Linguistique Appliquée, donc de la capitale de la Franche-Comté. C'est une jolie fille, une jeune fille qui a donc 21 ans, qui sort de son pays quand même pour un premier long séjour à l'étranger avec des codes culturels, une langue qui sont différents, et donc qui va vivre pour la première fois un petit peu de ses propres ailes et va partir en totale autonomie pour un an en France, dans cette région franc-comtoise qu'elle ne connaissait pas auparavant, bien sûr.
Quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui va vers les autres, hein, très sociable. Ses parents la décrivent comme un soleil.
Un homme va être rapidement soupçonné dans cette affaire, un ancien petit ami de Narumi, le Chilien Nicolas Zepeda Contreras.
Nicolas Zepeda Contreras, lui, il est un petit peu plus âgé. Il a 28 ans. Il est donc, vous l'avez dit, chilien d'origine. Il se présente à ce moment-là comme professeur assistant, mais il est encore quand même lui-même aussi étudiant, tout aussi brillant que Narumi. Lui exerce plutôt dans le secteur de la finance, sachant qu'il a aussi une véritable appétence pour les langues. Il vient d'un milieu extrêmement favorisé. Son père est un cadre du principal opérateur téléphonique du pays qui s'appelle Movistar. On est sur une famille qui a un patrimoine de génération en génération, qui est très implanté au Chili. Un détail, par exemple, c'est que Nicolas Zepeda Contreras, quand il était étudiant au Chili ou simple professeur assistant, avait à sa disposition un appartement de près de 100 mètres carrés dans le quartier de Las Condes, à Santiago du Chili, qui est vraiment le quartier le plus huppé de la ville. Donc on est loin de la situation de Narumi. Quand on regarde en parallèle, Narumi, qui elle donc a une chambre au Crous, le centre universitaire du campus de la Boulois, Besançon, qui est la traditionnelle chambre de 9 mètres carrés dans les campus universitaires français.
Narumi a rencontré Nicolas Zepeda Contreras au Japon.
Nicolas Zepeda Contreras, au-delà de son cursus universitaire, visiblement a développé une véritable passion pour le Japon, pour la langue japonaise, pour la culture nippone. Et donc, il a choisi lui-même de s'expatrier au Japon pendant un an. Il y va d'abord en 2014. C'est à ce moment-là qu'il rencontre la jeune Narumi, avec laquelle une idylle se noue.
Nicolas Zepeda Contreras avait été présenté assez rapidement d'ailleurs à la famille de Narumi. Il avait tissé des liens avec eux, ils avaient confiance en lui. Et bien au départ, comme je dirais toute relation qui débute, ils l'ont trouvé particulièrement attentionné et très présent aussi dans la vie de Narumi Kurosaki, avant d'avoir un ressenti différent au fil des mois, en ressentant plutôt quelqu'un d'omniprésent qui avait tendance à régir la vie de Narumi et à peut-être la couper aussi de sa famille, puisque très rapidement, Narumi, qui a une relation très fusionnelle avec sa famille, avec sa mère, avec ses deux jeunes sœurs, eh bien, s'est un petit peu éloignée d'elle. Et tout le monde a eu un peu la sensation qu'elle était isolée dans cette relation un peu exclusive et assez préoccupante, en tout cas sur la fin de la relation.
C'est vraisemblablement Narumi qui signifie à Nicolas Zepeda qu'elle a envie d'arrêter leur relation. Quand elle part en France, elle ne lui laisse pas la porte ouverte. Pour elle, leur relation est terminée.
Hi. Whoever is watching, how Narumi.
Le 7 septembre 2016, dans une vidéo postée sur Internet, Nicolas Zepeda menace Narumi.
Recently, Narumi did some bad things.
Il menace Narumi en disant, par exemple, je vous cite, « Elle a fait de mauvaises choses, elle a 2 semaines pour remplir les conditions. » Quelles sont ces mauvaises choses? Quelles sont ces conditions? On l'ignore et Zepeda ne s'est jamais expliqué là-dessus. Il dit également qu'elle doit payer une partie du coût de ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas continuer à commettre ce genre de faute envers une personne qui l'aime.
Son père l'a vu, sa mère est trop fragile psychologiquement pour... voir cette vidéo, elle sait qu'elle existe, elle sait ce qu'elle contient, mais le père et les sœurs l'ont vue, ils étaient catastrophés, inquiets, bouleversés aussi. Ils ont découvert un visage de Nicolas Zepeda auquel ils ne s'attendaient pas forcément, mais qui en même temps était assez proche des dernières inquiétudes qu'ils avaient eues sur cette volonté d'isoler Narumi dans le cadre de cette relation sentimentale.
Nicolas Zepeda fait le voyage en Europe où il arrive le 28 novembre 2016.
Zepeda, à ce moment-là, se trouvait au Chili. Il décide d'aller en France. Au préalable, on saura qu'il a loué une voiture. Cette voiture, il l'a commandée sur Internet le 17 novembre, donc bien avant de prendre l'avion. Et puis, il a aussi prévenu Narumi. Il lui a dit qu'il arrivait. Alors, elle-même n'en a pas averti ses proches, ses amis de Besançon, mais elle sait que le Chilien vient. Lui prétexte être venu voir cette famille en Espagne, elle lui dit « Voilà, je suis pas si loin que ça de toi, tu es en Franche-Comté, je me dis qu'un petit détour en Franche-Comté pour être sympathique. » Et à ce moment-là, elle accepte de le revoir, puisque lui dit « Voilà, je vais passer une poignée de jours, c'est l'occasion rêvée pour qu'on puisse se voir et discuter. »
Le 4 décembre 2016, Narumi et Nicolas Zepeda se voient, que font-ils ?
Ils se retrouvent, on est donc sur une journée de dimanche, mois de novembre, à Besançon, Narumi a fait ses habituelles activités du dimanche, notamment elle a son cours de danse en milieu d'après-midi. Et puis à l'issue de ce cours de danse, elle va retrouver Zepeda. Visiblement, elle ne s'en est pas ouverte auprès de ses proches à Besançon. On saura après qu'elle a un nouveau petit ami qu'elle a rencontré dans cette capitale franc-comtoise. Et on peut imaginer, et là on est clairement dans la supposition, puisque voilà, rien ne l'atteste, mais que Narumi a accepté de revoir ses ex un petit peu encombrant et qu'elle se dit que voilà, ils peuvent se retrouver pour discuter et faire le point sur leur vie respective. Donc Nicolas Zepeda, comme je vous le disais, il a une voiture de location, il vient la chercher sur le campus, et puis il décide de quitter la ville de Besançon et de se rendre dans la ville d'Ornans, qui est une petite ville très touristique, un petit peu sur les hauteurs de Besançon, dans la vallée de la Loue, à environ 30 kilomètres de la capitale franc-comtoise, qui est Ornans, la ville d'origine du peintre Gustave Courbet. Tous les deux vont aller au restaurant, en fait, un des nombreux restaurants de cette petite ville touristique qui s'appelle la Table de Gustave. Ils vont passer une soirée tranquille au restaurant. Les serveurs ils vont être interrogés après coup et ils se rappelleront très nettement avoir vu ce jeune couple ici. Ça, on le sait d'une part parce que, je vous le disais, il y a eu ce témoignage des serveurs. On le sait également parce qu'il y a les tickets de carte bleue. Le repas a été payé par carte bancaire. Et on le sait aussi et surtout parce que en redescendant sur Besançon, la voiture de Nicolas Zepeda va être flashée par un radar. Et ensuite, on aura les images de la vidéosurveillance du campus qui montreront le couple rentrer aux alentours de 23h dans le domaine universitaire et in fine dans la chambre de Narumi.
Que se passe-t-il sur le campus dans la chambre de Narumi ?
Quand on s'est rendu sur place, on a eu assez peu de mal à rencontrer des gens qui se souviennent de cette nuit-là, parce que tous, à cet étage-là, ont été réveillés par un cri que tout le monde décrira comme terrible aux alentours de 3h du matin. Certains sont même sortis dans le couloir en se disant « voilà, c'est pas un cri normal ». L'un d'eux nous décrira vraiment un cri terrible, un cri de terreur, et nous dira qu'il a hésité à ce moment-là, soit à aller voir de plus près ce qui se passait, soit éventuellement à prévenir aussi la police, mais comme on est sur un cri unique, tous ont tendu l'oreille pendant quelques minutes, et puis constatant qu'il ne se passait plus rien, sont rentrés chacun se rendormir dans leur chambre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans la chambre de Narumi ?
Ce qu'on retrouve d'abord, ce sont toutes ses affaires personnelles. C'est-à-dire que son portefeuille est là, sa carte bancaire est là, ses vêtements sont là, ses chaussures également sont là. En fait, en raisonnant à contrario, les enquêteurs se rendront compte après coup qu'il ne manque que deux choses, qui sont une couverture et puis la valise de Narumi, qui va faire couler beaucoup d'encre, qui va être au cœur véritablement de cette enquête, une valise de couleur orange fluorescente qui ne sera jamais retrouvée.
Que dit Nicolas Zepeda du déroulement de cette nuit ?
Lui dit que ce soir-là, ils sont rentrés tranquillement au campus et puis que, presque l'expliquera-t-il en souvenir du bon vieux temps, ils auront une relation sexuelle et que dans le cas de cette relation, Narumi émettra à un moment un cri de plaisir et puis que, après coup, elle s'est sentie un petit peu mal parce qu'elle lui a avoué justement qu'elle avait un nouveau petit ami, qu'elle culpabilisait d'avoir trompé et que, elle préfère que lui s'en aille à ce moment-là. Lui, d'après ses dires, n'aurait pas fait d'histoire. Il serait reparti en direction de Besançon pour dormir où, on n'en sait rien, il ne le précise pas. Quelques jours après, il va repartir en direction du Chili. Il y arrive le 13 décembre, une semaine jour pour jour, après le dernier jour où Narumi a été vue vivante.
De leur côté, les amis de Narumi vont continuer à recevoir de ces nouvelles.
Oui, alors ils reçoivent des nouvelles, notamment un message en japonais qui leur explique qu'elle est partie en voyage, qu'elle a des problèmes pour se connecter à l'internet, des messages qui émanent du téléphone portable de Narumi, de son adresse email, et puis des messages dont on se rendra compte après coup qu'en fait Nicolas Zepeda, en contactant une autre de ses amies japonaises qui vit également à Tsukuba, qui lui a demandé la traduction de ces messages en fait. Il lui a écrit en lui disant voilà, j'aurai un certain nombre de traductions à effectuer, est-ce que tu peux me dire comment on dit ça, ça ou ça en japonais ? Et on retrouve à ce moment-là les messages qu'il enverra plus tard, dont on soupçonne que c'est lui qui les a envoyés aux amis Narumi. Ça a très clairement retardé l'enquête. Donc d'abord, effectivement, ses amis ne s'inquiètent pas. Et puis, au bout de quelques jours, quand même, tout le monde commence à trouver ça suspect. Ses amis vont se mobiliser. On a un certain nombre d'avis de recherche qui sont lancés. Alors d'abord, de manière un petit peu informelle. Quand nous, on se déplacera sur place près de 15 jours, 3 semaines après, on retrouvera encore sur place, sur les poteaux électriques, les photos de Narumi avec ce numéro de « voilà, elle a disparu, aidez-nous à la retrouver ». La presse locale est saisie. Et puis, assez rapidement aussi, les services d'enquête, le parquet, les enquêteurs de la police, et on a un mandat d'arrêt international qui finalement est lancé le 15 décembre, soit très exactement 11 jours après que Narumi a été vue pour la dernière fois.
La nouvelle leur est parvenue de la disparition de Narumi par l'intermédiaire de l'université de Tsukuba, par un certain nombre de professeurs. Ce sont eux qui ont alerté la famille, le papa de Narumi et sa maman, en leur indiquant qu'il y avait une enquête en cours sur une disparition inquiétante de leur fille. Donc ça a été très abrupt et très brutal, comme vous pouvez l'imaginer.
Au début de l'enquête, fin décembre 2016, la police judiciaire va expertiser notamment le GPS du Renault Scénic loué par Nicolas Zepeda.
Avec un premier écueil pour ces données GPS qui est que au moment où les policiers saisissent la voiture, on est déjà un certain nombre de temps après qu'elle a été rendue et ces données ont été écrasées par de nouvelles données et sont assez difficiles à extraire pour les policiers. Et par contre, on a un deuxième élément qui est cette puce qui figure sur un grand nombre de voitures de location qui sont des puces anti-vol et qui servent aux agences de location pour savoir où se trouve leur véhicule en temps réel. Et ça, par contre, ça va être d'une grande utilité pour les policiers en charge de l'enquête qui vont retracer donc le parcours de Nicolas Zepeda. Un parcours dont on se rend compte que entre le 1er et le 4 décembre, donc le jour de la disparition de Narumi, il effectuait un certain nombre d'allers-retours entre Dijon, Besançon, et il faut savoir qu'entre ces deux villes, on a une région assez boisée, la forêt de Chaux, c'est la deuxième plus grande forêt de France, parsemée de cours d'eau, de trous d'eau, avec une immense surface dont les enquêteurs arrivent assez rapidement à la conclusion que si Nicolas Zepeda avait voulu se débarrasser du corps de Narumi, c'est très clairement là qu'il l'aurait fait, et d'autant plus qu'il y est beaucoup passé avant la disparition de Narumi.
Et à ce moment-là, les enquêteurs vont découvrir plusieurs choses troublantes.
Nicolas Zepeda s'est servi de sa carte bancaire pour effectuer un certain nombre d'achats. Il s'est rendu à un moment dans une grande surface de bricolage et là, il a acheté un certain nombre d'objets qui ne manquent pas d'interpeller les enquêteurs. On a notamment sur la liste de ses courses un bidon de 5 litres de liquide inflammable. On a également une boîte d'allumettes et puis un pulvérisateur de détergent. Autant de produits qui, à la lueur de la disparition de Narumi, ne manquent pas d'interpeller, je le disais, ces policiers.
Et des moyens très importants sont déployés pour rechercher le corps de Narumi.
Il faut se remettre dans le contexte. On est fin décembre, dans une région connue justement pour ces hivers assez rudes. Donc on a quand même des conditions assez dantesques pour aller essayer de retrouver le plus rapidement possible ce corps. Parce que les policiers disent d'emblée qu'ils ne cherchent pas une personne vivante, mais ils cherchent bien un cadavre. Et à ce moment-là, donc, on a un grand nombre d'effectifs de police qui sont mobilisés. Les policiers, en pareil cas aussi, font appel aux gendarmes. On a un hélicoptère de la gendarmerie qui va être engagé. Et puis, des chiens pisteurs, des chiens qui viennent des brigades spécialisées de la gendarmerie qui sont basées dans l'Hôte, à Gramma, qui vont faire le déplacement pour fouiller sans relâche autant de portions que possible de la forêt de Chaux, sachant que le périmètre des recherches va rapidement se resserrer. Avec un secteur, nous dira-t-on après coup, qui fait, on va dire, maximum 5 km sur 5 km. Ça paraît peu comme ça, mais quand vous cherchez un corps dans une zone boisée, voire quelques objets personnels, c'est vraiment chercher l'aiguille dans la meule de foin.
Et les recherches ne donnent rien.
Les recherches ne donnent rien. Pourtant, là, on peut vraiment dire que qu'à la fois la justice et les forces de l'ordre n'ont pas ménagé leur peine pour trouver Narumi. On a une première campagne de recherche qui ne donne rien. À ce moment-là, les enquêteurs, et ils nous le diront en off, la justice le dira également, ils se disent que voilà, en plein hiver, comme ça, peut-être mieux vaut attendre le printemps, le dégel, des conditions un petit peu plus favorables. Et puis on sait, pardonnez-moi de rentrer dans le détail de manière un petit peu crue, mais on sait qu'en pareil cas, le printemps peut-être peut rendre le corps. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et les campagnes de fouilles, de recherches vont s'enchaîner pendant plusieurs mois. Mais malheureusement, il faudra se rendre à l'évidence. Au terme d'un an et demi de recherche, aucun corps ne sera jamais trouvé. Et le corps de Narumi est toujours disparu.
D'après les enquêteurs, comment est-ce que Nicolas Zepeda aurait tué Narumi ?
C'est assez difficile à dire. On a d'abord pensé, au moment où l'enquête commençait, où le secret était le plus complet sur les investigations, que vraisemblablement, il aurait pu la tuer à l'arme blanche et que c'est la quantité de sang qui en aurait découlé, qui aurait laissé penser aux enquêteurs qu'effectivement, Narumi, potentiellement, ne pouvait plus être en vie. Et puis, quand le procureur a fait le point à l'automne dernier sur l'ensemble des investigations, il a révélé que, en fait, il n'y avait pas de traces de sang dans la chambre de Narumi. Les enquêteurs, aujourd'hui, se disent que vraisemblablement elle a dû être étranglée, mais là encore, en l'absence de corps, difficile de l'affirmer avec certitude. Et puis l'autre point, au-delà de la manière dont elle a été tuée, alors eux continuent à penser qu'elle a été tuée sur place, même s'ils n'en ont pas non plus la certitude, mais c'est leur conviction et ils pensent que ensuite le corps a été sorti de la chambre du campus universitaire. La vidéosurveillance, si elle montre le couple rentrer à l'allée, ne le montre pas sortir, alors sachant que cette résidence, il y a deux entrées aussi, donc il a pu passer par derrière. L'hypothèse que défendent les enquêteurs et qui serait la plus logique, c'est qu'il ait mis le corps dans la valise, mais là encore, même si Narumi est d'un gabarit assez fin et frais, au vu de la valise en question, les hommes de la PJ qu'on interrogeait là-dessus nous disaient qu'eux-mêmes ne pouvaient assurer avec certitude que Narumi avait été mise dans cette valise et que c'est par ce biais-là que son corps avait été sorti du campus.
Les parents de Narumi sont absolument convaincus de la culpabilité de Nicolas Zepeda. Il est l'unique suspect et il a toujours été l'unique suspect dans ce dossier. Aujourd'hui, de toute évidence, au-delà des éléments de ce dossier, les parents de Narumi et ses sœurs savent que Narumi ne serait pas restée pendant plus de 2 ans et demi sans les contacter, sans les voir. Ils savent que quelque chose de terrible lui est arrivé.
Est-ce que les parents de Narumi sont venus en France ? Est-ce qu'ils ont pu rencontrer les responsables de l'enquête à Besançon ?
Absolument, bien sûr. Ils ont été entendus par le juge d'instruction. Ils ont rencontré les enquêteurs, ils ont pu échanger avec eux. C'était important aussi pour eux pour matérialiser et comprendre un petit peu tout ce qui s'était passé, comprendre le cheminement de l'enquête et tout ce qui avait permis justement de conduire à cette suspicion d'assassinat.
Nicolas Jacquard, le 19 novembre 2018, le procureur de la République de Besançon va annoncer officiellement la fin des investigations dans cette affaire.
Au terme d'un an et demi de recherche, il se rend à l'évidence qui est que le corps de Narumi n'a pas été retrouvé et que le temps passant, les chances de le retrouver s'amenuisent très clairement. Et donc, il faut à un moment pouvoir arrêter cette instruction pour lancer de nouveaux actes, à commencer par une commission rogatoire internationale qui va permettre de tenter de confondre Zepeda et en tout cas de l'amener devant la justice française.
Pendant ce temps-là, Nicolas Zepeda est totalement libre de ses mouvements au Chili.
Il n'a jamais été placé ne serait-ce qu'en garde à vue, en tout cas l'équivalent au Chili de la garde à vue. Tout au plus a-t-il été l'objet d'un simple contrôle d'identité. Un juge l'avait fait venir au tout début de l'affaire. On nous disait qu'il était recherché, on nous disait que le mandat d'arrêt pesait sur lui et que la justice chilienne allait l'appliquer. Et puis en fait, la vérité, c'est que Nicolas Zepeda vivait tranquillement dans sa famille et comme le disait un confrère local, il se cachait surtout des médias plus que de la police.
Que peut faire la justice française à ce moment-là ?
À ce moment-là, il y a deux options. Soit faire venir Zepeda en France, soit tenter d'aller voir Zepeda au Chili. Et c'est ce que le procureur de la République a fait. Il a sollicité les autorités judiciaires chiliennes. Le procureur de la République de Besançon demande à ses homologues chiliens de pouvoir se rendre sur place pour auditionner le suspect. Et c'est ce qui va être accepté.
Et donc le 15 avril 2019, les Français qui conduisent l'enquête sont au Chili pour entendre Nicolas Zepeda. Comment se comportent-ils face à eux ?
D'abord, ce ne sont pas les Français qui interrogent directement le suspect. Ils le font faire indirectement par leurs homologues chiliens. On a un suspect qui est, comme toujours, comme depuis le début, très sûr de son fait, qui explique qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Comme on n'a pas de mesures coercitives, ni de garde à vue, ni de détention provisoire, il est très difficile de lui opposer autre chose que ce que lui avance. Donc, peu de choses ont filtré de cet entretien, qui était censé quand même durer assez longtemps, vu que les enquêteurs français avaient énormément de questions à lui poser. Et puis, au bout de 2 heures, on a vu sortir un Zepeda très... presque arrogant, presque fanfaronnant, sûr de son fait, et qui est reparti aussi libre qu'il était rentré.
C'est une torture absolue pour eux de savoir que Nicolas Zepeda vit totalement librement, dans des conditions tout à fait satisfaisantes au Chili. C'est totalement insoutenable, même si le fait que la délégation française ait pu se rendre au Chili pour entendre Nicolas Zepeda, ça a été un soulagement pour eux de se dire qu'enfin quelque chose se passait, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il est toujours libre et qu'aujourd'hui, ils ont l'impression qu'il bénéficie d'une totale impunité.
À aucun moment, il n'a fait l'objet d'une mesure de coercition quelle qu'elle soit, pas de garde à vue, pas de détention provisoire. On a quand même quelqu'un qui est accusé du pire des crimes. On est sur un assassinat, sur quelque chose de prémédité, de pensé, de préparé à l'avance. Et puis, on a l'impression que les Chiliens ne vont pas aller chercher plus avant, ni lui demander ce qu'il a pu faire et comment il se défend. Alors, les mauvaises langues disent qu'au Chili, la famille de Nicolas Zepeda Contreras est très connue, qu'elle a le bras long, et que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il bénéficierait d'un certain nombre de protections très haut placées. Difficile à dire, mais au vu de l'attitude de la justice chilienne par rapport à Zepeda, on se dit très clairement qu'il pourrait être protégé et que ce ne serait pas complètement incongru de le penser.
Maître Gallet, que demandent les parents de Narumi et à qui s'adressent-ils ? À la France, au Chili ?
Ils s'adressent à toute autorité qui serait susceptible de les aider, pour que tout le monde converge et surtout se tourne désormais vers la deuxième phase de ce dossier, la phase judiciaire, à laisser la place à une phase que je qualifierais de diplomatique, de politique, puisque nous sommes aujourd'hui tournés vers l'extradition de Nicolas Zepeda. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils veulent, parce que cette extradition permettrait aussi d'avoir davantage de réponses et puis surtout d'organiser un procès en France en présence de Nicolas Zepeda.
Merci à Nicolas Jacquard et Maître Sylvie Gallet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Spotify et Deezer. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.